Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Deuxième fin de semaine de décembre 2024. Ici Alex Baillargeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFAQ 88.3 Sherbrooke et de Chiz 94.3 à Québec. Vos radios universitaires préférées. Content de vous retrouver cette semaine. On aura encore un peu de cinéma dans la deuxième moitié de l'émission. Puisque j'avais oublié que j'avais été voir le film sur Charles Aznavour, ce qui est pas bon signe, et en même temps... oui, parce que c'est pas un mauvais film. Mais c'est ça, ça m'était complètement sorti de l'idée que j'avais été voir le film la semaine dernière, donc on y reviendra pour une petite critique. Il y a également un film d'animation qui prend aussi l'affiche aujourd'hui, et à la Maison du cinéma et au CLAP, en tout cas... Dans ma recherche, vite, vite, les deux présenteront le film. Flow, que ça s'appelle, F-L-O-W, en français, en anglais. Raz-de-marée, en français, je sais pas. Je sais pas s'il y a un titre français, en même. Mais voilà, c'est un film sans dialogue, donc traduction du titre n'est pas toujours obligatoire. Ça aurait pu être traduit, mais bon, c'est des détails. Un énorme dossier. Pardon. Qui a fait... pas nécessairement trembler, mais en tout cas, qui a fait... qui a fait énormément jaser, et pas nécessairement pour les bonnes raisons. C'est un rapport qui a été déposé. C'est-tu au Congrès ou à la Chambre des représentants? Sur la COVID. C'est bien le Congrès des États-Unis qui ont remis un rapport sur la COVID d'une sous-commission spéciale du Congrès américain sur les différents aspects de la pandémie qui donnerait raison aux complotistes. Mais qui a beaucoup de nuances à apporter à ce rapport-là. Parce que oui, on dit que c'est positif pour le camp complotiste, mais ça reste quand même que quand on lit le rapport, c'est pas aussi évident que ça qu'on donne 100% rapport, même qu'on dit aussi que les mesures de la pandémie ont eu du positif. Donc, ce n'est pas un 100% de raison qu'on donne à un côté que de l'autre. Mais il y a beaucoup de nuances à apporter. Notamment, sur les réseaux sociaux, évidemment, parce qu'on lit les grands titres et on ne lit pas en profondeur, on dit que les vaccins étaient néfastes. Ça, c'est la grande ligne des complotistes. Dans le rapport du Congrès américain, il n'y a aucune mention de ça. La COVID a été créée en laboratoire. Le rapport n'a aucune nouvelle preuve qui dit que oui, c'est fait en laboratoire. Donc déjà là, les deux premiers chevaux de bataille ont pogné une débarque dans la ligne de départ. Le rapport de la sous-commission conclut notamment que le virus causant la COVID-19 a très probablement, et les choix de mots sont importants, pour assurément, très probablement émergé dans un laboratoire à Wuhan en Chine, mais il n'y a pas de preuves. Le rapport dit aussi que le directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses aux États-Unis de l'époque, le docteur Anthony Fauci, aurait tenté de cacher ces informations-là. Le rapport critique également plusieurs des mesures d'institutions américaines lors de la pandémie, les dépenses gouvernementales ainsi que les conséquences sociales et économiques des confinements, notamment en ce qui concerne les fermetures d'écoles, qui sont déjà des trucs qui étaient là avant. Évidemment que de fermer les écoles, ça n'était pas positif. Il y avait quand même une pandémie mondiale. Fait que, est-ce qu'on laisse toutes les écoles ouvertes juste parce qu'il faut qu'on les laisse ouvertes? Ça n'aurait pas de sens. Sur ce comité, ce qu'il faut dire, les Républicains étaient majoritaires au sein de cette commission, la dirigeaient et beaucoup d'entre eux font partie du mouvement MAGA de Donald Trump. Donc, de leur demander d'être impartial et de voir les deux côtés de la médaille, c'est plus difficile. Donc, c'est sûr qu'un rapport signé par des républicains MAGA, qui plus est, ne sera pas objectif. 520 pages ont été rédigées sous la direction du républicain Brad Winthrop, président de la sous-commission. Les quelques démocrates qui ont participé à cette commission-là se sont à peu près tous récusés, se sont à peu près tous distanciés des conclusions du rapport pour présenter leur propre rapport, leur propre conclusion de leur côté, et estiment que l'exercice n'a pas su apporter un éclairage significatif sur les questions qui devaient être abordées à l'origine. Donc, c'est un rapport partisan qui n'a que de valeur pas grand-chose parce que de toute façon, les gens sur ce comité-là sont des MAGA républicains. Donc, ce ne sont pas des scientifiques qui se sont penchés sur la question. À preuve, l'un de ces représentants MAGA-là, c'est Marjorie Taylor Greene. Marjorie Taylor Greene est entre autres connue pour avoir dit que les feux de forêt qui avait cours dans les dernières années, était dû à un rayon laser qui venait de l'espace, un rayon laser juif qui venait de l'espace. Elle a dit ça publiquement comme si c'était normal. À preuve également qu'elle est complètement déconnectée, même Donald Trump ne lui a pas donné de rôle dans son cabinet éventuel qui s'en vient. Elon Musk a eu un poste avant Marjorie Taylor Greene et Elon Musk n'a jamais été élu par la population américaine pour avoir un rôle aussi important versus Marjorie Taylor Greene qui, malgré tout, a réussi à remporter ses élections en Géorgie. C'est en Géorgie, si je me souviens bien. Fait que même Donald Trump, que c'est sa supporter numéro un, qu'elle est une MAGA convaincue, n'a pas de poste au sein du cabinet Trump qui récompense les plus favorables à sa cause. Donc, on peut supposer que ce rapport-là de 520 pages, quand même que ça soit pas recto verso, parce que c'est probablement pas recto verso, ne vaut pas réellement la preuve ultime que le Congrès américain revirait sa chemise et disait que tout ce qui a été fait pendant la COVID était pas bon. À preuve, le document en tant que tel conclut en disant qu'il y a certains trucs qui sont quand même positifs là-dedans. Fait qu'en plus, même si on lit que les grands titres de un rapport républicain, non, un rapport du Congrès dit qu'il y a eu un manquement pendant la COVID, ben oui, ça, oui, ce bout-là est vrai, mais ça ne veut pas nécessairement dire que 100% des questions sont données en faux contre ce qui a été mis en place. Voilà, les membres démocrates de la sous-commission avaient, eux, publié un tout petit rapport, eux, de 57 pages quelques jours avant le rapport officiel qui critiquait le travail de leurs collègues républicains. Dans leur rapport, les démocrates, eux, accusent les adversaires d'avoir abandonné l'objectif initial de l'exercice, soit de prévenir et se préparer aux futures pandémies, qui est devenu un procès contre Anthony Fauci, qui n'est pas judiciable non plus, comme ce sont des représentants du Congrès et non pas des juges. Donc, s'ils ne sont pas scientifiques, ils ne sont pas plus juges, ça c'est sûr et certain. Les membres républicains ont plutôt vouloir avancer leur programme politique qui a peu contribué au travail essentiel visant à anticiper les futures crises de santé publique et à sauver des vies à l'avenir. Parce que oui, si le but c'était qu'à la prochaine pandémie, on soit mieux préparé, c'est pas normal que les conclusions soient « Anthony Fauci est un menteur ». Fait que c'est pas très viable comme exercice. Avec cette sous-commission, on est dans le travail parlementaire classique, soit celui de contrôler l'action gouvernementale, selon Julien Toureille, chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Landurant en entrevue avec Ici Radio-Canada Info. Les sous-commissions sont dirigées par le parti qui est majoritaire au Congrès. Donc, en ce moment, c'est le Parti républicain qui a la possibilité de définir l'agenda des rencontres et, évidemment, l'agenda du rapport final. Le parti majoritaire peut donner l'impulsion sur les sujets qu'on va traiter et sur les personnes que l'on va inviter. Et dans la rédaction du rapport, ce sont eux qui tiennent le stylo et qui peuvent l'orienter. Parce que oui, ces comités-là, parfois, peuvent être utilisés à des fins partisans pour essayer d'appuyer un discours qui tient le parti. Donc, pour justement cette partie où on veut que ça soit neutre et que ça soit informatif, bien évidemment, les Républicains, quand ils sont embarqués sur ce projet-là, ce n'était pas du tout leur mission ni leur but. Le rapport allègue, ce n'est pas prouvé, le rapport allègue que la COVID est probablement apparue en raison d'un accident lié à un laboratoire ou à la recherche. Il cite des propos tenus par le directeur des centres de contrôle de la prévention de la maladie de 2018 à 2021, Robert Redfield, et le directeur du renseignement national 2020 et 2021, John Ratliff. Tous les deux sont des partisans de longue date de la thèse de la fuite en laboratoire. Est-ce qu'ils ont des preuves pour appuyer cette information-là? Bien sûr que non. D'ailleurs, ils seront promus, John Ratliff est d'ailleurs promu, lui, comme prochain directeur de la CIA, rien de moins, même s'il n'a aucune qualification pour ça, par Donald Trump dans son prochain cabinet. Des rapports d'agences américaines à cet effet, dont ceux du FBI et du département de l'énergie, sont aussi évoqués. Parce que oui, l'énergie a rapport avec les maladies, c'est bien sûr. L'idée que le virus est échappé de l'Institut de virologie de Wuhan n'est pas nouvelle. Elle a fait l'objet de nombreux reportages et d'enquêtes approfondies. Un article journalistique dans la revue Science indique toutefois que le rapport n'offre aucune véritable ou aucune nouvelle preuve directe d'une fuite en laboratoire, mais résume des cas circonstanciels. Il s'appuie sur plusieurs témoignages qui ont été entendus lors d'auditions de la sous-commission du Congrès et non sur de nouvelles révélations probantes. Il n'en demeure pas moins qu'à l'heure actuelle, il n'existe aucun consensus scientifique sur les origines du virus et le rapport ne permet pas non plus d'arriver à des conclusions définitives. Donc, quand même que le Congrès américain, ou du moins les représentants minutieusement sélectionnés, disent que c'est ça qui est peut-être arrivé, ce n'est évidemment pas une preuve qui fait tout son sens et une preuve qui se peut dans le lexique de dire oui, c'était voulu et ou une fuite de laboratoire. Donc, encore une fois, on lit les gros titres, on s'arrête au fait que le Congrès a un effet dévastateur sur ce qu'on sait déjà, quand dans les faits, quand on lit les petits caractères, c'est pourrait probablement avoir été causé par, selon les gens qui sont venus parler. Donc, on repassera pour la technique scientifique, bien sûr. Voilà, pour le vaccin, le rapport critique le système de pharmacovigilance des vaccins aux États-Unis qui serait insuffisant et non transparent, ainsi que le programme d'indemnisation des victimes de vaccination qui n'auraient pas réussi à gérer un programme de vaccination de masse, la décision arbitraire de l'administration Biden d'offrir des doses de rappel du vaccin à tous les Américains avant que les agences de santé aient donné leur aval à une telle initiative est aussi dénoncée. Oh, surprise, un rapport rouge dit que les Bleus ont mal fait ça. Bien que certains commentateurs affirment que le rapport lève le voile sur l'inefficacité des vaccins de la COVID, le rapport dit le contraire. Donc voilà une conclusion qui, évidemment, n'est pas partagée massivement. On peut lire, donc, malgré le fait que ce soit partisan, malgré qu'il y ait 520 pages en faveur rouge et que les magas disent que les vaccins, c'est toute la scrap, on peut y lire que les vaccins étaient largement sûrs et efficaces et qu'ils ont joué un rôle crucial dans la réduction de la gravité des symptômes de la COVID-19. L'administration Biden est toutefois critiquée pour avoir exagéré la capacité du vaccin à prévenir l'infection et la transmission. Parce que oui, c'était prouvé que malgré la vaccination, on pouvait continuer à transmettre la maladie, même étant vacciné, et si on l'attrapait la COVID après ça. Ce que ça faisait, c'était que les symptômes étaient beaucoup moins graves, ne serait-ce que ça. On pouvait quand même, voilà, c'est ça, c'est qu'on pouvait quand même avoir la COVID même si on était vacciné, parce que les variants étaient quand même assez forts rapidement. Certains ont peut-être compris qu'on disait qu'on était immunisé, qu'on n'attraperait plus jamais la COVID de notre vie, chose qui évidemment n'est pas vraie, parce que même si on est vacciné pour la grippe, on peut avoir la grippe l'année suivante. Parce que la grippe continue d'évoluer année après année. Même chose avec la COVID. Même s'il n'y a plus de problèmes majeurs, il y a des gens qui ont quand même la COVID, qui vont obtenir la COVID, mais comme elle est beaucoup moindre que lorsqu'elle est apparue pour la première fois et que justement le monde entier s'est habitué, malheureusement, ou en tout cas a développé certains anticorps, ben ça fait en sorte que les gens sont moins malades aujourd'hui. Même si les variants qui existent encore aujourd'hui sont beaucoup moins forts que lorsqu'on parlait des cas plus graves. Et évidemment, ben si une personne vaccinée a la COVID, côtoie une personne qui est non vaccinée et qui attrape la COVID aussi, c'est sûr que la personne non vaccinée va être beaucoup plus malade que la personne vaccinée. C'est logique dans ce cas-ci. Mais ça reste que même si on dit que le rapport est dévastateur pour les apôtres de la vaccination et tout ça, le rapport stipule tout de même rôle crucial dans la réduction de la gravité des symptômes de la COVID-19. On n'en a peut-être pas parlé énormément dans les médias, chose qui est vraie parce que justement le rapport est partisan, sauf une chroniqueuse dans le Journal de Montréal qui a juste lu les grands titres et qui n'a pas approfondi sa recherche et qui a désinformer sa population. Mais de toute façon, tant que les clics sont là, tant qu'on a une preuve, parce que oui, les médias sont méchants, mais lorsqu'ils disent notre narratif, là, ils redeviennent bons, bien, pour les complotistes, c'était suffisant et de dire que tout le monde avait faux. Nous, les complotistes, on avait raison, etc. Mais quand dans les faits, lorsqu'on lit les petits caractères et lorsqu'on s'intéresse à ces 400 pages-là, on se rend bien compte que oui, il y a de la partisanerie, donc ce n'est pas 100% neutre, et qui plus est, on est quand même objectif sur la partie qui dit que la vaccination, c'est important. On s'arrête là-dessus. Au retour, la suite du deuxième service sur les ondes de CFAQ et de Chiz. Bon, allons-y avec la bande-annonce tout de suite. Comme je le disais en ouverture, ben, film d'animation qui prend l'affiche aujourd'hui même, le CLAP Maison du cinéma, entre autres, qu'il présente, CLAP à Québec, Maison du cinéma Sherbrooke, bien sûr. Ça s'appelle Flo. On va entendre l'ambiance de la bande sonore, de la bande-annonce, puisque ben, c'est un film sans parole, avec de la musique essentiellement et des effets spéciaux. Donc, normalement, je laisse aller la bande-annonce, mais là, il se passe pas grand-chose. Fait que c'est de l'audio, essentiellement, extrait de cette bande-annonce.
Thank you.
Donc, dans ce film, on suit un petit chat noir qui se réveille dans un univers envahi par l'eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d'autres animaux. On les voit dans la bande-annonce. Il y a un Golden Retriever, un capybara, un lémur et un genre de héron. S'entendre avec eux s'avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l'eau. Ça reste un chat. Tous devront désormais apprendre à surmonter leurs différences et à s'adapter au nouveau monde qui s'impose à eux. Règle générale, je suis client pour ce genre de film d'animation-là. T'sais, ce serait audacieux pour Pixar de faire une heure et demie sans parole, mais c'est le genre de petit court-métrage qu'on retrouverait normalement avant un début de film comme... avant le Sans dessus-dessous 2, ça aurait pu être le genre de petit film au début. Mais là, le défi, c'est une heure et demie. Et ça, c'est important de le préciser, justement, que c'est un film qui est quand même, qui est somme toute long, mais en même temps, qui fonctionne complètement. Tu sais, au bureau, pour en avoir parlé avec Alexandre, notre directeur, c'est lui qui a fait la recommandation du film cette semaine. Tu sais, on dirait que c'est une espèce de longue cinématique de jeu vidéo qu'après un certain moment, on prend le contrôle du chat qui doit explorer ce nouveau monde où l'eau monte à vue d'œil, littéralement. Et que c'est ça, donc c'est l'espèce d'esthétique qu'il y a, mais ça fonctionne. T'sais, même si c'est pas un jeu vidéo, j'ai eu envie de jouer à ce jeu vidéo-là du chat qui explore le monde maintenant enseveli sous l'eau. Voilà, donc l'esthétique de ce film-là est super beau. Il y a des superbes scènes, parce que, veux pas, chaque animal garde sa personnalité, même si on va comprendre que finalement, ils vont finir par s'entendre. Donc, chat et chien, évidemment qu'ils ne s'entendront pas au début. Le capybara là-dedans, tu sais, capybara, c'est une espèce de gros animal qui se fout un peu de tout dans la vie, qui fait juste vivre et qui est heureux de vivre. Ben on l'a aussi dans le film. Le plus paresseux de la gang, tu sais, il dort la moitié du film. Fait que, tu sais, les personnalités des animaux sont respectées, bien sûr. Il y a beaucoup d'images à travers les autres animaux qui vont être rencontrés également. Mais tu sais, voilà, donc c'est ça la prémisse. C'est un petit chat, il se promène, il est dans une espèce de sur une espèce d'île et soudainement, la montée des eaux se fait. Il a peur, bien sûr. Les autres animaux de la forêt qui sont là aussi ont peur. Et voilà, il y a des scènes de confrontation comme ça parce que chaque animal, évidemment, va revoir un peu son troupeau ou en tout cas va revoir sa famille animalesque. Puis, ne serait-ce que la scène avec les autres hérons, parce que c'est pas tout à fait des hérons, parce qu'ils ont comme une espèce de... Ils sont dans le style d'eux, parce qu'ils sont hauts sur pattes. Puis, ils n'ont pas de grand bec. En tout cas, c'est pas des hérons pantoute, finalement. Mais, tu sais, cette espèce d'oiseau-là qui, bon, va un peu confronter les autres. Il y a une scène, mon Dieu, qui est tellement émouvante. Quand il y a cette espèce de confrontation-là, c'est une heure et demie. À peu près, c'est une coproduction lettonne, belge, France. Je pense, il était dans la catégorie Un certain regard à Cannes. Je pense qu'il s'en va aux Oscars, si je me souviens bien des infos là-dessus. Ça vaut la peine d'être vu sur grand écran, ce film-là. Visuellement, est impeccable. Et justement, ce défi-là de n'avoir aucun dialogue, c'est vraiment les bruits de chat. Tu t'en fais. Pour ce pauvre petit minou-là qui est pogné dans l'eau, littéralement. Vraiment, il y a une gamme d'émotions. On passe par toutes les émotions dans ce film-là. C'est un véritable triomphe, selon les critiques. Voilà, il était dans la catégorie « Certains regards » du Festival de Cannes. Donc, sélection officielle pour la 97e cérémonie des Oscars. Voilà, c'est écrit sur le poster. Donc, il est en voie de remporter un Oscar. C'est vraiment un superbe film qui prend l'affiche aujourd'hui, vendredi. Donc, cette fin de semaine-ci, il est à l'affiche. Pour l'avoir vérifié rapidement, Maison du cinéma, c'est confirmé. Ici à Sherbrooke, le Clap à Québec, ça va être plus en matinée, en après-midi. Je pense pas qu'il y ait des projections de soir pour l'instant. En tout cas, pour vendredi, au moment d'enregistrer, la dernière projection est à 5 heures. À 5 fois, du moins. Voilà, ça en vaut la peine, c'est beau, ça ressemble à pas grand-chose d'autre. J'ai pas vraiment fait de lien avec d'autres films, donc c'est assez impeccable. On sent la détresse des animaux, le Golden Retriever qui, lui, veut juste s'amuser, qui voit le danger, mais qui est comme, OK, ben viens avec nous, petit chaton. Puis là, le chat, il a peur des chiens, fait qu'il veut pas. Puis, fait que tu sais, il y a plein de belles scènes, justement, que... faut se rappeler que ce sont des animaux, mais en même temps qui ont des réactions très humaines, veut pas. Fait que j'ai complètement dithyrambique sur ce film-là. Donc, Flo, il y a un titre français. Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. C'est le titre francophone qu'on lui a donné. Version originale sans dialogue pour ce film-là à l'affiche dès cette fin de semaine. Fait une courte pause. Au retour, on parlera finalement de ce film sur la vie de Charles Aznavour, ou du moins jusqu'aux années 80, comme la plupart de ces films-là s'arrêtent habituellement sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Deuxième bande-annonce, comme je le disais, vu il y a deux semaines. Pas parce que c'est un mauvais film que je l'ai oublié, mais parce que... malheureusement, il est un petit peu oubliable. Monsieur Aznavour, de Grand Corps Malade, notamment.
Charles Aznavour!
Tu chantes et tu joues au théâtre.
Je t'avoue que je prends tout ce qui peut me rapporter de l'argent.
On va devoir partager le dîner.
Oui, je sais, on va devoir dormir par terre.
Peut-être que tu veux chanter
des chansons d'amour.
Pour chanter l'amour, faut être beau.
À 18 ans, j'ai quitté ma province.
Bien des... Tu vois qui est là? Edith Piaf.
T'es comme moi, toi. T'as chanté dans la rue?
Comment que j'ai chanté dans la rue?
Pour être chanteur, il faut une voix, et ta voix, elle est voilée.
Je veux faire mon propre disque. Ma tête sur la pochette, mon nom au-dessus. Faut qu'on passe à la vitesse supérieure.
Les photos, les chansons...
Un Arménien, ça a la réputation de savoir compter. Aznavour ferait mieux de faire de la comptabilité. C'est pas du racisme, ça? Je vais convaincre chaque spectateur, dans chaque salle, et je chanterai jusqu'à m'en déchirer la glotte.
Bon, tu me dis ce qui va pas?
Faut que je travaille plus, que je répète plus. On reprend.
T'es dans tes pensées, dans tes chansons, il y a toujours quelque chose.
Si je dois tout négliger autour de moi, pour y arriver, je le ferai.
Tes ambitions, elles finiront par tout te faire perdre. Moi, ta femme, ta fille, tout.
C'est toi, papa, qui chante?
Et comment que c'est moi?
Tu passes à la radio?
Eh oui.
Cette fois, Charles, tu vas entrer par la grande porte. On va t'entendre partout.
Je crois que j'ai trouvé la formule. La formule Aznavour. Ce soir, je vis ou je meurs.
Alors, comme je le disais, une réalisation de Grand Corps Malade et de Mehdi Idir. Monsieur Aznavour, fils de réfugié, petit, pauvre, à la voix voilée. On disait de lui qu'il n'avait rien pour réussir. Et à force de travail, de persévérance, d'une volonté hors norme, finalement d'être un workaholic, Charles Aznavour est devenu un monument de la chanson et un symbole de la culture française. Après plus de 1200 titres interprétés dans le monde entier, et dans toutes les langues, il a inspiré des générations entières. Découvrir le parcours exceptionnel et intemporel de M. Aznavour. Essentiellement, c'est ça. C'est pas un mauvais film, mais c'est ça, c'est très oubliable. Il n'y a pas de truc ultra choquant non plus. On est beaucoup dans la réserve, t'sais, sans non plus dépeindre Charles Aznavour comme étant l'être suprême qu'il est. En tant que monument de la chanson française, on lui met pas non plus trop ses scandales dans sa face. T'sais, on parle brièvement du suicide de son fils illégitime, puis on fait juste dire « Charles, ton fils est mort ». Et après ça, on sort des funérailles, puis il pleure tout seul dans son coin, et that's it. Voilà, c'était le segment sur le suicide de son fils. Fait que tu sais, même dans le film sur Edith Piaf, on voyait plus de choses violentes, entre guillemets. T'sais, son impresario qui se fait descendre, qui était Gérard Depardieu, d'ailleurs, dans le film sur la môme. Tu sais, on y va, là. On voit la réaction d'Edith Piaf qui découvre le cadavre, qui repart, puis nanana. Je dis pas qu'il faut voir le cadavre du fils suicidé de Charles Aznavour. Non, non. Mais, tu sais, je comprends qu'on veut protéger, puis tout ça, puis nanana, mais reste quand même que on fait un film biographique sur sa vie. On veut pas juste passer sur les grandes lignes de « Il a sorti son album telle année. Il est arrivé ça. Dans la production, il était désagréable. Il s'est fâché avec tout le monde. Il voit jamais sa fille. » Tu sais, essentiellement, c'est juste on coche des cases. On coche une liste de choses à mettre dans le film et that's it. Ironiquement aussi, c'est ça, c'est un film sur Charles Aznavour, mais on passe beaucoup de temps avec Edith Piaf. Et ironiquement, le film d'Edith Piaf avec Marion Cotillard, sorti il y a 10-15 ans, fait quasiment pas de mention de Charles Aznavour, autant que Charles Aznavour mentionne Edith Piaf dans le film sur Charles. Parce que, tu sais, oui, elle est importante, c'est elle qui lui donne sa première chance et qui, bon, va le prendre sous son aile pendant une période de temps, jusqu'à temps qu'il y ait cette confrontation-là entre Aznavour et Edith Piaf, mais c'est ça. On passe beaucoup de temps sur Edith Piaf. Fait que, tu sais, sans non plus tomber uniquement dans son point de vue à elle. T'sais, on reste toujours du point de vue de Charles Aznavour sur les situations qui se passent. Je trouvais que, toute cette partie-là avec Edith Piaf, c'est comme un complément au film avec Marion Cotillard, même si ce n'est pas Marion qui est dans le film sur Aznavour, l'actrice Marie-Julie Beaupe qui l'interprète, convaincante. On a l'impression que c'est elle pour vrai. La ressemblance est là. Mais tu sais, mis à part de ça, c'est ça, sur Charles Aznavour en tant que tel, son mariage désastreux avec la deuxième mère de ses enfants, puis sa relation presque inexistante avec ses jumeaux, etc. Fait que, tu sais, c'est ça. Au moins, on ne fait pas que dire que Aznavour est l'être extraordinaire qu'il est. Là, tu sais, sa vie de famille est nullissime, voire catastrophique, parce que justement, sa carrière passe en premier. Edith Piaf, au début du film, il dit « Ah, ben là, te marier, des enfants, non, tu ne seras jamais capable de faire vivre ça. » Et effectivement, il n'a pas été capable. Fait que, c'est ça, il y a des petits éléments comme ça qui sont, oui, intéressants. Il y a cette mode-là aussi de faire des films historiques sur les monuments de la chanson une fois qu'ils sont partis. Est-ce que c'est réussi? C'est correct. Là, c'est pas un film aussi extraordinaire que peuvent l'avoir été d'autres. Tu sais, La Môme avait fait l'unanimité quand c'était sorti. Celui-là d'Aznavour, bon, il est un petit peu plus critiqué, mais c'est pas parce que c'est mauvais. T'sais, en tant que tel, l'acteur qui joue Charles Aznavour, Tahar Rahim, méconnaissable. Tu sais, ils ont réussi. Il y a certains angles dans le film, il y a certaines scènes où vraiment, un peu de profil, la ressemblance est frappante avec Charles Aznavour. T'sais, on reconnaît Charles Aznavour, même si là, bon, on arrête quand il a 50 ans et qu'il écrit « Hier encore, j'avais 20 ans ». Fait que, tu sais, le divulgacheur, le film se termine avec « Hier encore ». Je suis vraiment un divulgacheur, mais tu sais, après ça, ben, le film classique se termine avec des images d'archives de Charles Aznavour qui triomphe à l'Olympia de Paris, etc. T'sais, qui triomphe en show parce qu'il a tellement été aimé de son vivant, etc. Fait que tu sais, c'est un peu fleur bleue, justement, là-dessus, mais on ne cache pas tous les mauvais détails non plus. Puis bon, Est-ce que c'est un homme de famille qui aime beaucoup sa famille immédiate, même s'il ne réussit pas sa famille personnelle, familiale? Il est très proche de sa sœur, très proche de ses parents, veut pas, fils d'immigrant, etc. Fait que voilà, on passe par au travers de quand même plusieurs clichés de films, j'ai envie de dire. On a introduit un moment donné un certain... Johnny Hallyday, jeune. La ressemblance est là aussi avec l'acteur qu'ils ont pris pour Johnny Hallyday, jeune. Fait qu'est-ce qu'il y a un projet de film sur Johnny qui s'en vient? Possiblement que oui, parce que les Français aiment tellement Johnny Hallyday. Fait que ce serait complètement impossible qu'il n'y ait pas de film qui se fasse sur sa vie, bien que la descendance se continue de se battre devant les tribunaux pour l'héritage. Mais bon, ça c'est un autre dossier. Mais reste que... c'est un film, oui, intéressant, mais qui va être extrêmement intéressant aussi quand il va passer à la télévision dans 2 ans, un dimanche soir, dimanche à Paris. Ce sera avec M. Aznavour. Donc, lorsque ce film passera à la télévision, ça vaudra la peine de le voir. Mais sinon, d'aller le voir en salle, il est encore à l'affiche à quelques endroits. Je pense que la maison du cinéma est encore là, le clap aussi, jusque j'ai encore l'onglet d'ouvert. T'sais, si on s'y intéresse un peu, il y a quand même... Ah oui, il est encore à l'affiche au clap Sainte-Foy, en tout cas. Mais voilà, donc oui, ça peut valoir la peine d'être vu sur grand écran, mais sinon, on peut très bien attendre sa diffusion télé. Ça sera pas si grave que ça non plus. C'est ça, film correct... Malgré, on connaît à peu près toutes les chansons. On sort pas des sentiers battus non plus. On met pas trop de chansons qu'on ne connaît pas du répertoire d'Aznavour. On passe au travers des plus connus, bien sûr. Hier encore, formidable. Les comédiens, c'est vrai. On parle des comédiens aussi. Fait que, tu sais, on connaît ce répertoire-là de Charles Aznavour. On n'est pas trop en dehors des sentiers battus. Fait que grand écran, OK, mais peut-être on peut attendre. Sinon, le mardi, quand ça coûte moins cher. Courte pause au retour. La conclusion du deuxième service de cette semaine sur les ondes de CFAQ 88.3 et de CHIZ 94.3. On est de retour au deuxième service. Peter avec Ciel en musique sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ. Deux petites nouvelles brèves pour conclure l'émission de cette semaine. Une suivie de dossiers et... On va aller aussi dans l'ordre. Suivie de dossiers, on avait parlé un petit peu à l'émission. Il y avait deux avocates lors du procès de Marc-André Grenon, deux avocates de Sherbrooke, pour être un peu gênant, de la région de l'Estrie. La région de l'Estrie, qui ont défendu le meurtrier Marc-André Grenon. On se souviendra, il avait agressé et tué à Jonquière, oui, fin des années 90, début 2000, ou pendant les années 90, qui était après... En 2000 pile, l'homme de 49 ans aujourd'hui a écopé d'une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement Guylaine Potvin et son meurtre au premier degré. Le verdict est tombé après seulement 30 minutes de délibération en février dernier. Donc, ce crime-là qui était irrésolu depuis 24 ans s'était conclu en février dernier. Bien, les avocates, et surtout la plus jeune des deux, avaient trouvé ça brillant de faire des petites vidéos sur Instagram d'elles qui marchent dans le palais de justice de Saguenay sur... Gangster Paradise de Coolio, donc paradis des gangsters, comme il s'amusait à le traduire à Radio-Canada. Mais tu sais, sur de la musique rap, c'est comme « Ouais, nous sommes les juristes de Sherbrooke qui débarquent à Saguenay, yeah, yeah, on va rendre justice, etc. » Fait que très malaisant. Et puis, cette semaine, elles devront faire face, chacune d'elles, à une plainte disciplinaire de la part du syndic du barreau du Québec. Le barreau refuse de divulguer les faits qui sont reprochés aux deux avocates et de confirmer que les plaintes ont un lien avec la vidéo promotionnelle diffusée il y a quelques mois sur Instagram, parce qu'elles ont été des avocates influenceuses. Parce qu'en plus de faire jouer Gangsta Paradise dans les couloirs de Saguenay, elles étaient commanditées pour leur tenue d'avocate, donc leur petite collerette, était commanditée par une boutique qui se spécialise dans la vente de vêtements pour les tenues des judiciaires, des avocats. Donc, en plus, elle faisait de la promo sur leurs médias sociaux. Et puis, bien sûr, ça n'a pas passé. Vanessa Farran et Karine Poliquin ont fait la manchette en février à la suite de leur vidéo sur leur compte Instagram. Quel procès qu'elles ont perdu. Montage composé d'extraits de bulletins de nouvelles qui montraient les deux avocates circulant dans le palais de justice de Chicoutimi dans le but de faire la promotion à leur initiative personnelle de toges et de rabats que portaient les criminalistes. La vidéo est accompagnée de chansons et de musique gangster. Il était aussi du monde de la rue où il faut... Non, ça c'est la chanson. L'application Instagram a été mise de côté depuis, donc elles devront subir les conséquences qui pourraient mener à des radiations temporaires ou définitives dans le cas de l'un ou l'autre, ou du moins de ne pas pratiquer pendant au moins 5 ans. Donc, difficile début de carrière pour l'une des deux qui était reçue au barreau en 2019 et l'autre qui avait une quinzaine d'années d'expérience de mémoire. Sinon, nouvelle un peu plus locale, mais qui est quand même assez parlante. Un chauffeur de taxi de Sherbrooke a réussi à prévenir une fraude de type grands-parents. Donc, ces espèces d'appels téléphoniques que passent ces fraudeurs-là en disant « Allô, grand-maman, allô, grand-papa, je suis arrêté présentement, je suis au palais, je suis au poste de police, faudrait que tu m'envoies 10 000 piastres cash, fait que je vais envoyer quelqu'un qui va venir chercher l'argent pour moi, peux-tu aller retirer au guichet, s'il te plaît, ça serait important, nanana. » Malheureusement, certaines personnes âgées mordent à l'hameçon qui réussissent à, en tout cas, croient à ces trucs-là. Et ça a failli arriver cette semaine à Sherbrooke. Le chauffeur en question a contacté les agents de la police de Sherbrooke vers 13 heures. Ça, c'était mercredi, concernant un homme âgé qui venait de retirer plusieurs milliers de dollars de son compte de banque et qui s'apprêtait à retourner chez lui en taxi. Rapidement, les policiers se sont rendus sur place pour y rencontrer la victime, pour un peu lui expliquer ce qui en était. Et on a appris que l'homme avait bel et bien reçu un appel lui indiquant qu'une enquête était ouverte pour une histoire de fausse monnaie et qu'il devait fournir des milliers de dollars pour faire des vérifications. Une personne devait passer pour chercher l'argent, selon Martin Carrier, relationniste du service de la police de Sherbrooke. Bien sûr, il s'agit de fraude. Une femme s'est présentée chez la victime quelques minutes plus tard. Et on a procédé, heureusement, à l'arrestation. Une dame de 37 ans de la région de Montréal, qui serait connue des milieux policiers, toujours selon Martin Carrier, elle sera interrogée et devra faire face à des accusations de fraude, de supposition de personnes et de possession de faux documents. Elle devait comparaître en cour ici à Sherbrooke mercredi. C'est grâce à la vigilance du chauffeur de taxi qui a remarqué l'histoire un peu nébuleuse de la personne âgée et qui a bien fait d'appeler les autorités. On a vu dans le passé des gens qui se sont fait passer pour des membres de la famille impliqués dans des accidents ou des histoires de faux policiers qui doivent procéder à votre arrestation si vous ne les payez pas pour une caution de plusieurs milliers de dollars. Donc, il faut être vigilant et dans le doute, il faut raccrocher. Le truc qu'on donnait aussi, c'était de, si par exemple, votre petit-fils vous appelait, ou en tout cas un membre de votre famille vous appelait en direct du palais de justice, simplement prétexter un problème, raccrocher et appeler la vraie personne pour lui demander « T'es-tu au palais de justice? » Non. Ah, OK, j'ai failli vous faire frauder d'abord. Donc, vérifier avec le principal intéressé ou la principale intéressée avant de se rendre à la banque et vider son compte, littéralement. On s'arrête là-dessus pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Deuxième Service, ici sur les ondes de CFAQ 88.3 et de CHIZ 94.3. À la semaine prochaine. Salut!